Suivant notre étude de ce thème, connais-toi toi-même à la lumière du livre de Job. Et nous aurons aujourd'hui le chapitre 22e de notre livre où nous trouvons le discours d'Éliphaz. Et je voudrais que nous nous rappelions le texte thème qui a été lu au cours de toute la semaine comme un genre d'introduction à nos rencontres et qui donne toute gloire à notre Seigneur. Chapitre 11 des Romains, verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. En effet. Qui lui a donné. Ce matin, nous vous avons donné comme verset du jour les dernières paroles du psaume 139, cette merveilleuse prière du psalmiste qui nous montre que nous n'avons pas à nous livrer à l'introspection, ce qui nous conduirait certainement au suicide, mais au contraire de dire au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Montre-moi toi-même s'il y a en moi quelques voies de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle, dans la voie de l'éternité. Le Seigneur peut lui-même mettre son doigt sur la plaie de notre cœur et nous montrer peut-être ce que nous devons lui confesser, ce que nous devons abandonner, pour quels besoins nous devons surtout prier et nous devons croire quand nous prions et que nous demandons quelque chose qui est à la gloire de Dieu selon sa volonté, que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Le Seigneur est un Dieu fidèle et qui entend toujours et qui s'étonne quelquefois que nous n'allions pas davantage à lui. C'est ce que nous disions dans une parole prophétique ce matin, n'est-ce pas? Pourquoi suis-je venu, nous dit le Seigneur, bien souvent. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Nous n'étions pas au rendez-vous, mais lui était là, il est venu, il nous a même précédés, il était prêt à nous répondre, à nous parler, mais nous ne sommes pas venus. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Est-ce que nous ne croyons pas qu'il a tout puissance, il dessèche la mer par une de ses paroles. Voyons ce texte pour le remettre au fond dans son contexte, parce que toute parole prophétique doit être absolument confirmée par l'Écriture pour que nous sachions si c'est l'homme qui parle ou si c'est vraiment le Seigneur. Quand le Saint-Esprit parle, eh bien, il donne les paroles de l'Écriture. Et alors, nous sommes à l'aise, nous sommes tranquilles. C'est au chapitre 50 d'Ésaïe où il dit « Ainsi parle le Seigneur, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère ? Est-ce que vous pouvez de penser que le Seigneur ne veut plus être en relation avec vous, et bien montrer la lettre de divorce. Il ne l'a pas fait. C'est pas lui qui se sépare de vous. C'est toujours nous qui nous séparons. C'est pas lui. Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos fautes, c'est à cause de vos crimes que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? j'ai appelé. Pourquoi personne n'a répondu? Ma main est-elle donc trop courte pour libérer? Voyez-vous, vous pouvez compter sur une libération. Sa main est là pour libérer. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Est-ce que Dieu ne peut pas vous délivrer? Peut-être une habitude, que sais-je encore. Lui le sait, il est capable de vous délivrer. Mais alors vous devez aller à lui exposer votre besoin. Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, ils périssent de soif. Je revais les cieux de noirceur, je fais d'un sac leur couverture. Et puis après, vous avez ces magnifiques paroles où il nous est dit qu'il nous réveille chaque matin pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples et commencer la journée en ayant reçu une parole du Seigneur. Quelle force, quel encouragement. Et cette parole est pour la journée une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et s'il y a des pièges, eh bien, nous sommes alertés et nous n'y tomberons pas. Alors commençons nos journées avec le Seigneur en ayant reçu une parole du Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons nous remettre entre tes mains ce soir. Tu sais que les uns et les autres peut-être ont des moments de fatigue et nous voulons te prier que tu restaures nos âmes et nos corps et que ce soir nous puissions encore manger ta parole et y trouver le goût d'un gâteau au miel comme cela était vrai pour la manne la première fois que les Israélites l'ont mangé. Ils l'ont vraiment savouré. Garde-nous de nous habituer et de dire que cette parole n'a plus que le goût d'un gâteau à l'huile ou finalement de ne plus la lire parce que notre âme serait dégoûtée de ce pain misérable. Oh, combien nous tremblons de devenir semblables à ces Israélites, car tu nous dis que tout ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple et a été écrit pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs. Nous te demandons donc de nous bénir par ta parole et que les uns et les autres nous puissions éprouver, que tu démontres que ta parole ne tue pas, mais que ta parole nous fait vivre. Pour ta seule gloire. Amen. Bien, mes amis, nous entrons aujourd'hui dans la troisième série de discours du livre de Job. Et en résumant, hier soir, l'essentiel des 21 premiers chapitres qui contiennent donc, je le répète, 520 versets, nous vous avons fait remarquer qu'après avoir vu Job accepter sans murmure les 6 épreuves absolument incompréhensibles qui fondirent en un seul jour sur lui, nous avons souligné que la 7e épreuve, dont il ne se sentait pas, était la visite de 3 de ses amis venus de loin pour le consoler. Satan n'ayant pas pu triompher de Job par la perte de ses biens, de ses serviteurs, de ses enfants, de sa santé, vous voyez cette succession de mots que vous avez dans la première, dans les premiers chapitres, Satan n'ayant pas pu triompher, eh bien, il avait cherché à faire sortir Job de sa grande patience en le poussant à maudire son jour. C'est le chapitre 3 qui commence l'écrit en vers, en une poésie, tandis que les 2 premiers chapitres, comme nous l'avons souligné, sont en prose. Eh bien, c'est le chapitre 3 qui donne au fond à Éliphaz, le plus vieux de ses amis, font l'occasion d'ouvrir la bouche et d'essayer de donner une réponse qui devrait être une consolation pour Job. Et vous avez ce discours d'Éliphaz, le premier discours d'Éliphaz, au chapitre 4 et 5 du livre de Job. Et peut-être que ceux qui n'étaient pas là feraient bien, en tout cas, de relire ce chapitre et de comparer aussi avec le deuxième discours d'Éliphaz et maintenant avec le troisième et dernier discours d'Éliphaz. Éliphaz ne reprendra plus la parole. Et vous savez, quand on prend souvent la parole, eh bien, on risque de se répéter, de dire à peu près les mêmes choses et l'on finit par se taire parce qu'on n'a vraiment plus rien à dire. C'est un vrai disque parce que les arguments d'Éliphaz ne changent pas. Et dans le discours que l'on va faire, qu'on va étudier, on verra qu'il reprend peut-être des arguments de ses amis, de Bildad et de Tsophar, et il fait un mélange de cela pour parler encore à Job. Mais ce que vous constaterez, c'est que le ton n'est plus du tout le même. Pendant 7 jours et 7 nuits, Éliphaz n'a rien dit. Il a contemplé la misère de Job. Et ça, Job n'a pas pu supporter. Si long silence, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que ces gens pensent? Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur? Comment est-ce qu'ils interprètent nos épreuves? Et on est tourmenté. Oh, si Éliphaz avait été plus près du Seigneur, eh bien, il n'aurait pas eu ce silence qui finalement était pour Job insupportable. Il aurait eu une parole prophétique qu'il aurait pu lui donner parce que l'Esprit nous inspire. Mais il faut demander au Seigneur que nous soyons les instruments de son cœur pour ceux qui souffrent. Mais voyez-vous, j'ai toujours fait cette expérience quand on se trouve devant une grande détresse. La première chose que le Seigneur fait, il nous met à zéro. Ça, vous pouvez en être sûr. Ne croyez pas que vous êtes capable ou que vous êtes spécialiste de la cure d'âme et que vous pourrez vous en tirer, n'est-ce pas, en débutant votre petit schéma pour encourager les âmes. Vous risquez d'être à côté. Et quand on croit parler de Dieu, eh bien, vous savez, de qui parle-t-on souvent? Eh bien, ce n'est pas vraiment de Dieu, ou c'est d'un Dieu à notre mesure. Et je crois que c'est absolument nécessaire que nous ayons d'abord ce sentiment que nous ne sommes pas capables, que notre incapacité est totale. L'apôtre Paul nous le dit, notre capacité, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Mais le premier sentiment que l'on a, c'est que nous ne pouvons rien dire. Alors, nous disons au Seigneur, bien, si toi, tu as une parole pour cet ami ou pour cette personne dans la détresse, eh bien, voilà ma langue. Je te livre ma langue et emploie ma langue. Mais que ce soit toi qui lui dis cette parole et qui la lui dise dans ton intonation, peut-être avec ton regard, peut-être avec une main qui se pose sur la personne en détresse. Vous savez, les mourants, je l'ai eu souvent dans mon ministère à les uns, eh bien, ce qui les aidait, par exemple, c'est qu'on leur tienne la main pour ce passage. Avoir une main humaine, une main de vie qui est dans la leur, ou mettre notre main sous leur tête quand ils s'en vont. Il y a un contact qu'il faut avoir, mais là encore, n'est-ce pas, il faut se laisser guider et diriger par le Seigneur. Parce que avec les uns, c'est comme ça, avec les autres, c'est autrement. Mais j'ai toujours réalisé que le Seigneur nous met à zéro. Et quand on est à zéro, alors l'unité vient se placer devant. Et quand l'unité est devant un zéro, ça fait 10. Et puis, Si je me suis senti même 3-0, ça fait 1000 quand l'unité vient devant. Et, comme je dis quelquefois, si j'ai été dans toute la ligne, je me sens 6-0, eh bien, ça fait 1 million. C'est cela qui est merveilleux. Il est l'unité. Et plus vous sentirez votre faiblesse, plus le Seigneur pourra se servir de vous. Le sentiment de notre faiblesse ne doit pas nous décourager. C'est tout à fait normal. La puissance de Dieu, elle s'accomplit dans la faiblesse. Relisez le chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens. Mais si vous croyez être sûr de vous, vous allez gâter. Et vous allez peut-être faire une application d'un verset même biblique à quelqu'un que ça ne concerne pas. Et c'est ce qu'on fait, les amis de Job. La plupart des paroles que les amis de Job ont prononcées, elles sont valables, hein, elles sont même très belles, mais ce n'était pas pour Job. Ce n'était pas pour Job. Ça ne correspondait pas à l'état de Job. Et croyez-le, même le diable sait citer l'écriture. Il connaît l'écriture. Et il peut aussi même vous inciter à faire un faux pas en vous citant un verset biblique. C'est là qu'il faut veiller et demander au Seigneur que nous vivions vraiment dans sa dépendance. Qu'il parle par notre bouche, qu'il aime par notre cœur, qu'il touche par nos mains et que nous soyons des instruments de bénédiction pour ceux qui nous entourent et qui sont dans la détresse. Alors, ce serait terrible que Satan nous emploie, au fond, pour faire le contraire de ce que Dieu voudrait. Les amis de Job venaient pour le consoler, et puis, au fond, ils n'ont fait que de le pousser à se justifier davantage, alors que le Seigneur voulait lui faire comprendre que s'il avait pu tenir le coup, c'est pas parce qu'il était exceptionnellement fort. Certes, le Seigneur ne mettait pas en doute ni sa droiture, ni son intégrité, mais il voulait lui faire comprendre que c'était par sa grâce qu'il avait pu tenir. La gloire n'appartenait pas à Job. La gloire appartenait à Dieu. Et il a dû apprendre cette leçon. Il n'était pas plus que les autres, mais il était l'objet de la grâce de Dieu. Et nous, comme chrétiens, si nous avons un bon témoignage, ce n'est pas parce que nous sommes des êtres exceptionnels. Comprenons-le bien. Il n'y a pas d'êtres exceptionnels dans le Christ. Il y a les membres du corps de Christ. Et ce sont membres du corps de Christ. Animé par sa vie, vous pouvez être perçu par le monde comme quelqu'un qui n'est pas comme les autres, parce que vous êtes membre du corps de Christ. Et alors, si vous voyez quelqu'un membre du corps de Christ et qui a un don particulier, eh bien, au lieu de le jalouser, vous, parce qu'il n'avait pas peut-être ce don-là, eh bien, qu'est-ce que vous devez vous dire? Il m'appartient. Cet ami est un don pour moi. Nous sommes membres d'un même corps. Nous sommes complémentaires. Et si un même a reçu plus que moi, eh bien, je vais rendre gloire au Seigneur et je veux m'en réjouir. Et ne pas jalouser, c'est ma richesse. Vous êtes ma richesse. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous devons apprendre à estimer notre prochain supérieur à nous-mêmes. Ne jalousez pas les dons des autres. Dites merci Seigneur de nous avoir donné ce don-là. Merci de nous permettre de bénéficier de telle ou telle chose, d'un don d'une sœur ou d'un frère, peu importe. Alors il y a de l'amour qui circule entre nous. Et ne nous croyons pas plus que les autres. Restons petits à nos propres yeux si vous voulez que le Seigneur nous utilise. Car le Seigneur résiste aux orgueilleux et il ne donne pas sa gloire à un autre. Dès qu'un homme commence à se glorifier dans
son ministère ou de son ministère, eh bien, il y a trois choses qui peuvent lui arriver. Quand on n'est plus vraiment au pied du Seigneur, quand on se montre trop, eh bien, il peut arriver. Ou le Seigneur nous reprend. Nous disparaissons par la mort. Et cela est arrivé. Je pourrais vous raconter des choses précises à ce sujet-là. Le Seigneur nous enlève de devant ce danger. Ou alors, ce qu'il suscite, retentissant, et qui est connu, et alors qui humilie, ou qui nous met absolument de côté. Et vous avez vu les scandales qu'il y a eu, c'est ce qu'on appelle les télé-évangélistes. Alors, soyons sur nos gardes pour qu'une telle chose n'arrive pas. Et puis, il y a aussi d'autres moyens que Dieu peut employer pour nous mettre de côté, pour nous faire partir dans un autre lieu. Quand on s'attache trop à l'homme, eh bien l'homme est appelé à partir plus loin. Ce n'est pas à un homme que Dieu vous attache. Et ce n'est pas d'un homme que Dieu parle. C'est du Seigneur de cet homme. Et ce que vous aurez vu du Seigneur en lui, c'est ça qui compte. C'est pas lui-même. Alors, Satan a essayé. Il n'a pas pu triompher de Job. Aucune parole n'est sortie de la bouche de Job au travers de ces six épreuves qui furent déshonorées du Seigneur. Le diable a été battu. Alors Satan va essayer de se servir des amis de Job pour l'amener à maudire le jour de sa naissance. Et alors là, évidemment, Job est allé trop loin. On ne maudit pas le jour de sa naissance. Puisque Dieu nous l'a donné. C'est Dieu qui sait. Non. C'est un moyen détourné de dire à Dieu qu'il n'aurait pas dû le faire naître. Et on n'a pas à prendre en dégoût la vie. C'est la deuxième chose que Job disait. Il était dégoûté de cette vie, et puis il demandait la mort. Nous n'avons pas à demander la mort. Nous devons être prêts à la subir, si Dieu le veut, mais à l'heure qu'il voudra. Car si nous devons vivre, il en vaut bien la peine, même si nous avons des difficultés et des épreuves. Alors, quand Eliphaz a entendu Job parler de cette façon, là, vous lisez le chapitre 3, il a pensé qu'il devait lui parler. Et alors les arguments qu'il a employés pour convaincre Job reposaient essentiellement sur son expérience, sur ce qu'il avait vu. Et il prétendait même, pour se donner plus d'autorité, avoir eu une révélation dans une vision. Et son erreur, c'est d'avoir cru que Job vraiment attaquait Dieu et qu'il fallait prendre la défense de Dieu. Il faut que vous acceptiez de subir les paroles, même intempestives, que celui qui est devant vous pourra dire au sujet de Dieu. Il ne faut pas vous choquer immédiatement. Vous n'avez pas à être choqué. C'est tout à fait normal. Vous avez à vous mettre dans sa peau et à vous dire, mais peut-être que moi aussi je dirais ça si j'étais à sa place. Donc, écoutez, ne soyez pas d'abord scandalisé, on est scandalisé, c'est impossible que vous disiez des choses pareilles sur mon Dieu, moi je connais Dieu. Ne vous mettez pas en avant, mais humiliez-vous de ce que cet homme dit de votre Père des cieux, ce qu'il ne connaît pas encore aussi intimement que vous, parce que si vous le connaissez intimement, c'est encore une grâce. Lui, elle n'a peut-être pas le degré de connaissance, d'intimité avec le Seigneur. Alors c'est normal que, ne comprenant pas, ils jugent, ils disent des choses de ce genre. Alors n'essayez pas de vous faire le rempart de Dieu, hein, c'est ça. On se fait le rempart de Dieu. C'est lui qui est notre rempart. C'est pas nous qui pouvons protéger la réputation de Dieu. Accepter d'entendre des choses, oui, qui nous font mal, parce que, au fond, c'est de notre Père qu'on parle. Et alors nous en sommes attristés, mais nous prions davantage. Il y a une puissance de la prière. Et je l'ai dit souvent, si c'est vrai, c'est tout notre être qui prie, parce qu'on sent que nous sommes rien. Et tout l'être qu'on prière, un cri vers Dieu. Oui, si Eliphaz faisait appel pour convaincre Job à ce qu'il avait dit, à son expérience, nous verrons aussi que Bildad et Tsophar, eux, faisaient appel à la tradition des pères et au légalisme, mais tous voulaient expliquer à Job le pourquoi de ses épreuves. Et ils n'avaient pas le livre de Job pour savoir ce qui s'était passé, eux non plus. Comme Job lui-même n'avait pas le livre de Job pour savoir qu'il avait été l'objet d'une attaque de l'adversaire, de Satan, et que Dieu avait permis à Satan de l'éprouver pour que Job ait l'occasion de prouver dans le monde que Satan avait tort, que on ne sert pas à Dieu parce qu'on a intérêt à le servir, mais on le sert parce qu'on l'aime. La gratuité de notre service pour Dieu doit être connue et reconnue. Ce n'est pas par intérêt. Nous n'avons pas de mobile intéressé à être au service du Seigneur. Pas du tout. Si nous sommes au service du Seigneur, c'est une grâce qu'il nous fait. Il ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Et c'est purement gratuitement que nous voulons le servir. Il nous fait cette grâce d'être à son service. Ne pensez jamais qu'il vous doit quelque chose parce que vous êtes à son service. Ne pensez jamais qu'il vous doit quelque chose parce que vous êtes à son service. Là, vous êtes sur un mauvais chemin. Dieu ne vous doit rien. Et s'il vous appelle et que vous puissiez répondre, bien c'est une grâce. Si je suis au service du Seigneur, c'est parce qu'un jour, il m'a appelé. Ce n'est pas les hommes qui m'ont appelé. Un jour, le Seigneur m'a appelé. Et j'ai su que c'était sa voix. Sans cela, il y a longtemps que j'aurais tout abandonné. Nous ne pouvons pas traverser les épreuves s'il n'y a pas vraiment un appel de Dieu. Et que le Seigneur nous appelle, que le Seigneur nous ait choisi, bien, cela nous confond parce qu'on se sent si misérable dans une... Il aurait pu tellement choisir quelqu'un d'autre. C'est ce que Moïse était arrivé à comprendre. Mais tout au début, quand il avait 40 ans et qu'il sortait des facultés égyptiennes, il pensait que l'heure était venue pour lui d'agir et qu'il était convaincu que c'était lui que Dieu avait choisi pour délivrer Israël. Alors, il y va avec de bons motifs et que fait-il? Eh bien, comme ce n'est pas l'heure, et qu'il y va avec sa force charnelle, eh bien, au lieu de faire du bien, il tue, et il doit ensuite s'enfuir et vivre en exilé pendant 40 ans. Et c'est quand il est un homme fini, à 80 ans, que Dieu lui apparaît et lui dit, on va commencer. Alors là, oh non, Seigneur, envoie qui tu voudras, hein, mais pas moi.
Il a renoncé complètement. Et puis c'est justement au moment où il est à zéro que Dieu lui dit, ça commence. C'est cela que nous devons comprendre. Mais mettons nos prétentions de côté. Alors examinons maintenant ce fameux discours d'Éliphaz, comparé à son premier discours. On peut dire que c'est un discours violent. Et si Éliphaz, dans le premier discours et dans le deuxième discours, a été prudent d'abord dans ce qu'il disait à Job, tout en insinuant déjà qu'il était amené à penser qu'il y avait certainement dans sa vie quelque chose qui n'était pas en règle, mais ici, alors dans le troisième discours, bien, il met plus des gants. Ce n'est pas avec un gant de lourd qu'il va parler à Job, mais avec une main de fer qu'il le frappe. Nous prenons ce chapitre. Éliphaz de Théman prit la parole et dit « Un homme peut-il être utile à Dieu ?» Qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais il faut d'abord se rendre compte que Dieu n'a pas besoin de nous. C'est ça. On vous a enseigné tout le contraire. On vous a toujours enseigné que Dieu avait besoin de vous, il a besoin de vous. Mais Dieu n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne. S'il nous emploie, c'est une grâce. Et s'il nous utilise et que nous voulions bien marcher, c'est une obéissance. Tu comprends? Mais si on pense que sans nous, eh bien la terre ne tournerait pas, tu comprends? Voilà, voilà la question.
Oui.
Oui, mais c'est une grâce qu'il t'emploie, tu comprends? Et plus tu comprends cela, eh bien, plus tu seras dans sa dépendance. Parce que nous passons, tu comprends? Je ne voudrais pas vous enlever une motivation à le servir, mais il faut passer vraiment par cette humiliation. Parce que je te dirai une chose pour que tu sois satisfait. De quoi le Seigneur a-t-il eu besoin sur la terre?
Il a eu besoin de faire une forme.
Oui, bien sûr, mais qui est-ce qui avait formé la terre, qui l'a employé? C'est Dieu, hein? C'est pas toi qui l'avais fait, n'est-ce pas? Alors, la terre, c'est Dieu qui l'avait fait, il a pris cette terre. Mais maintenant, je pense à Jésus. Quand il était sur la terre, eh bien, bien sûr, dans un sens, il a eu des besoins des femmes, l'assistaient de leurs biens. Pense donc. C'était plutôt des femmes qui s'occupaient de ses besoins, au point de vue financier. Hein. Des femmes comme Jeanne, femme de Jusas, Suzanne et Marie-Madeleine. C'était des femmes riches qui avaient connu le Seigneur, qui les avaient libérées, délivrées, et elles avaient mis leurs biens au service du Seigneur. Des femmes l'assistaient de leurs biens, parce que Jésus n'avait rien. Mais il n'y a qu'une parole où il est dit que le Seigneur a eu besoin, c'était d'un ânon. Ça, il en avait besoin. Le jour des rameaux, pour entrer à Jérusalem, eh bien, il lui fallait un ânon, parce que l'ânon, c'est la monture royale en temps de paix, tandis que le cheval, c'est la monture royale en temps de guerre. Quand il est venu la première fois, il a eu besoin d'un ânon. Quand il reviendra la seconde fois, il est sur un cheval, hein, parce qu'il vient pour régner et il vient pour établir son règne. Alors il est vu sur un cheval blanc. Mais sur la terre, quand il est entré à Jérusalem, il y entrait comme le roi de paix. Mais il n'a pas été reconnu. Eh bien, ce dont il a eu besoin, c'est d'un ânon. Parce que si vous prenez le psaume 50, que nous avons médité une fois ici dans le camp, Dieu nous montre que il n'a pas besoin, au fond, de nous. Et que s'il nous utilise, s'il nous emploie, c'est une grâce. Je lis dans le psaume 50, verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il remplit. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Puis oui, Dieu n'a besoin de rien, il a tout. Vous comprenez? Il a tout, c'est nous qui avons des besoins. Alors, nous sommes dépendants de lui. Ne pensons pas que, voilà, Seigneur, je t'offre mes services. C'est lui qui vous appelle. Et c'est à nous de dire, oui, Seigneur, je viens. Mais c'est une grâce. Et on est tout tremblant quand il nous appelle. On n'y va pas avec une assurance charnelle. On lui dit, viens. Si tu ne viens pas avec moi, alors je ne peux pas. Alors, et on ne le devance pas. On le suit. Alors, nous revenons à notre chapitre. Donc, un homme peut-il être utile à Dieu? Non. L'homme de bon sens n'est utile qu'à lui-même. C'est une vérité, n'est-ce pas? Mais elle est partielle, et c'est pourquoi dans le livre de Job, eh bien, il y a certaines vérités, il y a un aspect que nous pouvons vraiment prendre. Tout ce qu'a dit Eliphaz n'est pas faux dans un sens. Et au fond, si tu marches avec le Seigneur, tu es surtout utile à qui? À toi. Oui, et aux autres, n'est-ce pas? Mais c'est quand même... C'est cela que nous devons combattre. On se fait du bien à soi-même quand on est obéissant au Seigneur. C'est nous qui en avons le premier bénéfice. Parce qu'écoutez les paroles de Jésus au sujet du serviteur inutile. Quand vous aurez fait tout ce que je vous ai dit de faire, dites, nous sommes des esclaves inutiles. C'est une grâce que le Seigneur nous utilise. Donc, on ne peut pas se glorifier. Et on ne peut pas faire le compte des bonnes actions, des choses remarquables que nous avons faites. Cela fait-il plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste? N'est-ce pas? Il y a une partie de vérité. Si tu es juste, tu l'es pour toi-même, tu en bénéficies. Mais au fond, ne pense pas que ce soit cela qui fasse d'abord plaisir au Tout-Puissant. C'est par grâce que nous sommes justes. Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Mais alors, vous voyez comme le ton a changé. Parce que dans son premier discours, il disait exactement à peu près le contraire. Il disait à Job que son intégrité, sa piété, tout cela devrait être sa confiance. Il lui disait... Tu as fortifié les mains languissantes. Tes propos ont relevé celui qui trébuchait. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant, s'il s'agit de toi, tu te lasses. Maintenant que cela te touche, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? Et puis voilà. Maintenant, alors, il a un tout autre langage pour la même personne, pour le même Job, qui est toujours dans son affliction. Et il lui montre qu'au fond, tout ce en quoi Job pouvait se confier n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu. Est-ce verset 4, à cause de ta piété qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Il a reconnu, Eliphaz, que Job était pieux. Mais maintenant, il lui dit, est-ce que c'est à cause de ta piété? Avant, il lui disait, ta piété, est-ce que c'est pas ta confiance? Puis maintenant, il lui dit, est-ce que c'est à cause de ta piété qu'il te châtie? C'est pas possible que Dieu te châtie parce que tu es un homme pieux. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Tu as péché. Tu es coupable de quelque chose qui n'a pas été confessé. Verset 5. Ta malfaisance n'est-elle pas grande? Vous voyez où il en arrive à accuser Job de choses qui sont graves. Ta malfaisance n'est-elle pas grande? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? Avant, il avait reconnu que Job était pieux. Maintenant, c'est un grand pécheur, c'est un grand coupable. Et ça va loin maintenant. Il passe à des accusations précises. Car tu prenais sans cause les gages à tes frères. Donc, c'était un voleur. Hein. Il le traite au fond de voleur. C'est encourageant hein, d'avoir un ami qui vient nous dire, bah, t'es un voleur. Tu arrachais les vêtements à ceux que tu laissais nus. Vous rendez-vous compte, Job qui avait tout, et puis qui prenait encore le vêtement de son prochain. C'est que c'est la première chose que l'on donne dans ces pays de l'Orient, c'est un verre d'eau, c'est sans prix un verre d'eau. Eh bien, tu ne le donnais pas. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était à l'homme fort, donc il était du côté du plus fort, Job. Et l'orgueilleux y siégeait, donc il appuyait les orgueilleux. Tu renvoyais les veuves les mains vides. Et vous savez qu'il y a près de 100 passages dans l'Écriture qui parlent des veuves. Les bras des orphelins étaient brisés, alors que Dieu est le père des orphelins dans sa demeure sainte et le juge de la veuve. C'est pour cela que tu es entouré de pièges. Maintenant, il lui donne l'explication. Au fond, si tu es dans la peine, bien nous avons trouvé, c'est parce que tu as un tas de péchés que tu as commis et tu as fait des injustices. De sorte que, vous voyez, après cette introduction qui va du verset 2 au verset 4, vous avez maintenant Eliphaz, accusateur contre le comportement de Job. Et puis, du verset 12 au verset 20, une accusation contre son attitude religieuse. Et enfin, comme nous allons le voir du verset 21 au verset 30, un appel quand même à la repentance. Mais Eliphaz, l'ami, est devenu vraiment l'accusateur. Hein, et il fait l'œuvre de Satan. Car quand on accuse, on est du côté de Satan. Il dit, et la terreur t'a saisi tout à coup. C'est pour cela, donc maintenant ils ont trouvé l'explication, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui te recouvrent? Est-ce que tu ne comprends pas, Job? Ça y est, nous avons trouvé. Vous comprenez pourquoi Dieu dira à Eliphaz, tu n'as pas parlé de moi à Job, comme il convenait. Tu n'as pas parlé de moi comme Job l'a fait. Dieu a condamné les discours d'Éliphaz. Non pas qu'il n'y ait pas eu de belles paroles dans ses discours, des paroles même justes, mais qui ne s'appliquaient pas à Job. Et on peut susciter la colère de Dieu contre nous, dans notre ministère, dans notre service. C'est pourquoi c'est en tremblant que nous accomplissons notre ministère. J'ai dit il y a quelques années, il y a peut-être 4 ou 5 ans, oui, je faisais des conférences dans un milieu suisse, et puis un autre prédicateur qui était avec moi, il me disait, oh tu sais, moi hein, je suis tellement habitué, je prêche là. Bon. Puis moi je lui ai dit, ben, tu sais, des fois ma chemise elle est déjà mouillée avant que je commence, parce que je suis dans la présence de Dieu, et puis parler de Dieu aux âmes, ou bien nous allons les repousser, les fermer, et puis mon premier auditeur, c'est Dieu, il s'est mis à rire, il me dit, tu me racontes des bêtises, hein. Parce que toi, tu parles comme ça, là. Il pensait qu'il n'y avait pas d'exercice. Il pensait que je n'étais pas à zéro avant. Mais bien sûr que nous le faisons en tremblant. Paul l'a toujours fait aussi en tremblant. Nous ne sommes pas sûrs de nous. Puis nous savons bien que nous ne pouvons pas nous-mêmes convaincre. Nous n'avons qu'un talent pour ça. Ou alors, si nous pensons en avoir un, eh bien, le Seigneur nous humilie parce qu'il ne donne pas de crédit à la chair. Alors, on continue. Dieu n'est-il pas en haut, dans les cieux? Regarde la hauteur des étoiles, comme elles sont élevées. Mais enfin, il croit que Job n'est pas au point du tout, et il faut lui parler de la grandeur de Dieu. Alors il lui parle de la hauteur des étoiles. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu connaît? Bien sûr, il y a eu des moments où Job a eu des écarts de langage. Alors, tu dis, qu'est-ce que Dieu connaît? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuages sont un secret pour lui, et il ne voit rien. Il avait l'impression, Job, par moments, que Dieu ne voyait rien. C'est vrai. Et vous ne l'avez pas eu? Quelquefois, cette impression que Dieu ne voyait rien, il n'intervenait pas. Vous n'avez pas eu cette pensée? Et vous n'aviez pas envie de tout plaquer? Mais Job ne voulait pas tout plaquer. C'était un malade d'amour. Comprenez-le bien, vous aurez le secret. C'était un déchiré, parce que d'un côté, il aimait tellement son Dieu, mais d'un autre côté, il ne comprenait pas. Il y avait conflit pour lui. Comment croire en un Dieu juste et tout-puissant et se trouver dans une telle misère, avec une surabondance d'épreuves, et surtout avec ses amis qui sont là pour te juger et pour mettre le doigt sur la soi-disant plaie de ton cœur et qui se trompent. Et qui te blesse à côté, qui te blesse davantage. Et vous arrivez au milieu du livre de Job. Donc les nuages sont un secret pour lui, il ne voit rien, il parcourt le cercle des cieux, et quoi? Tu voudras conserver l'ancienne route, conduire les hommes injustes? Il met Job avec les hommes injustes qui ont suivi les mauvais chemins, les anciennes routes. Ils ont été saisis avant le temps. Voilà le verset central, le milieu du livre de Job, d'après les Massorètes. C'est ce verset 16. Ils ont été saisis avant le temps. Alors, toi Job, tu fais partie de ces gens-là, des hommes injustes. Leur fondation est un torrent qui s'écroule. Ils disaient à Dieu, écarte-toi de nous. Mais il n'a pas été compris, Job. Job était tellement dans la souffrance qu'il avait l'impression que Dieu le regardait. Alors il disait, bien, si tu détournais les yeux de moi, parce que ce regard était pesant, il avait l'impression que l'œil de Dieu le scrutait, le voyait et n'en pouvait plus. Ils disaient à Dieu, écarte-toi de nous. Alors que peut faire pour eux le Tout-Puissant? C'est lui pourtant qui avait rempli de bien leur maison. Le conseil des méchants est bien loin de moi. Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Celui qui se lève contre nous n'a-t-il pas disparu? Le feu n'a-t-il pas dévoré leur profit? Et alors, après avoir parlé ainsi à Job de ce que sont les méchants, de ce qui leur arrive, il lui fait quand même un appel à partir du verset 21e. Après, au fond, lui l'avoir accusé d'avoir une attitude contraire à la vraie religion. Alors vous voyez cet appel. Parce qu'Eliphaz a quand même un sentiment d'affection pour Job. Accorde-toi donc avec Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'est pas en accord avec Dieu. Et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Mais il pense que lui, il lui transmet les paroles du Seigneur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Et c'est vrai pour certains qu'on peut leur dire, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Mais souvenez-vous que Eliphaz a dit cela à Job et c'était à côté. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Au fond, c'est une accusation que Job devait être avare, aimant l'argent. Et le Tout-Puissant sera ton or. On a chanté ce cantique, oui, qui est là. C'est là que a été trouvée ces paroles de ce cantique. Au caillou du torrent, jette, tout est bien, et le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens, et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi des morceaux d'argent. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Mais est-ce que Job ne faisait pas déjà ses délices du Tout-Puissant? N'est-ce pas? Il l'exhortait, et puis, Job était un amoureux de Dieu, et c'était là son drame. Tu l'imploreras, et il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si l'on t'humilie et que tu dises c'est de l'orgueil, alors Dieu sauvera celui qui baisse les yeux. C'est une expression qui montre notre humilité quand on baisse les yeux. Il délivrera même qui? Le coupable. Donc, pour Eliphaz, Job est coupable. Voilà. Job est coupable. Il est classé coupable. Mais, il lui dit que Dieu peut délivrer même le coupable. Et c'est vrai. C'est vrai que Dieu peut délivrer même un coupable quand on reconnaît sa culpabilité. Mais Job ne pouvait pas reconnaître qu'il était coupable sur les choses dont on l'a. Parce que c'est tout le contraire. Vous allez voir plus loin, ça va tout se lier et on va revenir sur cela. Vous allez voir plus loin que Job, justement, s'occupait des veuves, s'occupait des orphelins, revêtait ceux qui étaient nus. On l'a accusé exactement de faire le contraire de ce qui était sa pensée. Et puis, on lui montre que lui-même pourra délivrer d'autres qui devront leur délivrance à la pureté de tes mains, une fois qu'il aura les mains pures. Voilà. Nous nous arrêtons là. Nous reprendrons cela demain. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que je t'ai pas choqué en te disant ça. Un petit peu?
Je ne comprenais pas encore le fait que Dieu n'a pas besoin de personne, n'a pas besoin d'âme. Parce que pour moi, dans ma tête, dans ma tête, là, pas dire que c'est la vérité, c'est dans ma tête, c'est que Dieu a besoin des hommes quand même, il a besoin de vous pour,
Oui, mais c'est pour, une grâce.
Mais pour donner sa grâce, il a besoin de vous.
Oui, mais je participe à ce qu'il est, puis c'est tout, tu comprends? Mais c'est une grâce. Mais je peux pas dire, si je suis pas là, Seigneur, il y a personne.
Un maçon qui bâtit une maison, le maçon n'a pas besoin de la brique pour l'aider à bâtir la maison, mais il a besoin de la brique, pareil.
Oui, mais nous sommes d'accord, tu comprends. Mais je montre surtout un aspect, mais tu verras, tout ça va se placer. Mais on a trop dit, n'est-ce pas, on a trop laissé croire à des gens qu'ils étaient indispensables. Et alors ils se sont glorifiés. Et ils sont devenus tannants.
Mais c'est que Dieu t'attend, mais toi, à mon père, que vous voyez, t'attends à aimer moi. Voyez-vous qu'il a donné son fils unique pour moi. Voyez-vous?
Mais c'est le quiconque. Alors je lui dis, pas pour moi. Il t'aime autant que moi. C'est ça qui est faux, de penser que nous sommes le nombril du monde. Comment? Il faut être des quiconques, tout à fait d'accord. Nous sommes des quiconques et nous ne sommes pas des exceptions. Et c'est ça, on fausse les idées. Et même les biographies font souvent, elles font du bien dans un sens, hein, mais elles font aussi du mal. Parce que dans les biographies écrites par les hommes, on te montre toujours que les beaux côtés de la vie d'un homme, et alors on se dit, mais moi, j'y serai jamais. Tandis que les biographies de la Bible, elles sont vraies. Elles te montrent des hommes, pas seulement avec des qualités, mais avec leurs défauts. Tu comprends? Et tu te dis, mais ils sont comme moi. Alors, fais ton courage.
Dans une biographie de Müller, là, qui a été écrite
en France. Oui. Non, mais on peut en retirer du profit, tu comprends? Mais les vraies biographies, les meilleures, ce sont celles de l'écriture. Parce qu'elles nous montrent des hommes comme David. Il n'y a pas que les psaumes de David, il n'y a pas que les actes beaux et bien de David, mais il y a aussi ses faiblesses qui nous sont énumérées. Nous, ce que nous devons comprendre, c'est une obéissance. Hein. Nous obéissons. C'est dans ce sens-là. On va prier. Notre Dieu, nous voulons te demander que tu continues à faire ton œuvre dans nos cœurs et que tu replace toute chose dans sa vraie position. Nous voulons t'adorer et nous voulons te bénir parce que tu t'occupes de nous. Tu as jeté un regard d'amour sur nous et malgré que nous ne sommes rien, tu veux bien nous employer, nous utiliser. Oh, que nous puissions être toujours conscients et que c'est une grâce. Tout est grand. Pour ta seule gloire. Amen.